Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, habituellement quand quelqu'un m'annonce des fiançailles, ça me réjouit, c'est le début d'une belle histoire, peut-être de la fondation d'une famille. Mais là, c'est l'inquiétude qui domine, la même que quand le ciel devient noir juste avant l'orage, le géant allemand de la chimie Bayer veut se marier avec le roi américain des pesticides et des OGM Monsanto. Les paysans du monde et ceux qui regardent le contenu de leur assiette sortent leur parapluie.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Hello everyone. We are delighted to be here making this announcement together.
Bayer, c'est l'inventeur de l'aspirine, c'est le spécialiste de la chimie et de la pharmacie. Monsanto, c'est le spécialiste des engrais et des pesticides, comme son célèbre Roundup.
Roundup, il n'y a pas mieux pour désherber. Et au prix où c'est maintenant, j'hésite pas, j'en mets partout dans les champs.
Roundup de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
Nous nous engageons pour résoudre l'un des plus grands défis de notre société. Nourrir une population mondiale de plus en plus nombreuse en respectant l'écologie. Ce que nous faisons est bon pour les consommateurs.
Évidemment, et c'est pour ça que j'utilise Roundup Pure Force. C'est radical et c'est rentable. J'en passe plus de 100 litres par an parce que je m'en sers toute l'année.
Roundup Bioforce, plus on s'en sert, moins ça revient cher.
En fusionnant ces deux activités, les résultats du groupe vont gonfler de plusieurs millions d'euros.
We believe, working together, we can create a brighter, sustainable world for all of us. That's the world we visualize at Monsanto, and we're working every day to make it reality.
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Cette phrase, écrite dans les années 30 par l'écrivain politique italien Antonio Gramsci, résonne fort aujourd'hui. La fusion de Bayer et de Monsanto donnerait naissance à un monstre qui dominerait plus de un quart du marché mondial des semences, des engrais et des pesticides. Avec nous dans ce studio pour en parler, Valérie Cavan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste en droit international et auteur du « Droit pour la Terre » dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil, on y reviendra. Et en face de vous, François Véred, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Génération Future et président du Pesticide Action Network Europe, hein, parce que c'est un réseau donc, de vigilance, on va dire, vis-à-vis des pesticides,
oui,
qui est présent dans le monde entier.
Tout à fait, les ONG présentes sur tous les continents.
Alors je vous propose tout d'abord à tous les deux de nous présenter les futurs mariés, hein, la dot, c'est-à-dire le prix du rachat de Monsanto par Bayer, c'est 66 milliards de dollars, 59 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Alors le plus gros d'abord, Bayer, François Weyret.
Oui, mais Bayer est très connu dans le monde des entreprises des pesticides, c'est une entreprise qui a un passé en Europe avec d'autres entreprises allemandes qui remontent en des temps, des périodes très troublées, et c'est aujourd'hui une firme qui est connue à la fois pour son activité pharmaceutique et puis
Ce qui représente la moitié de son chiffre d'affaires.
Une grosse partie de son chiffre d'affaires et puis aussi pour la mise sur le marché de nombreux pesticides, dont de nombreux insecticides qui sont mis en cause dans le dépérissement des colonies d'abeilles.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils fabriquent notamment
des néonicotinoïdes.
Voilà, j'ai toujours du mal à le dire. Qui sont donc ces pesticides qui nuisent aux abeilles, oui. Et qui aujourd'hui sont quand même sous le coup d'un moratoire imposé par l'Union européenne depuis 2013.
Oui, et une disparition programmée au niveau national dans quelques années.
Alors Bayer, sur son site internet, écrit que les néonicotinoïdes sont sans danger s'ils sont utilisés correctement.
Alors ça, c'est la ligne de conduite habituelle des entreprises qui fabriquent des pesticides, c'est-à-dire que le produit n'est pas, d'après leur dire, le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé correctement. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, c'est parce que vous l'avez utilisé d'une manière non correcte, et donc ils transfèrent leur responsabilité d'industriel à l'utilisateur. C'est tout à fait classique, c'est la part des lobbyistes de l'agrochimie.
Mais comment on peut utiliser un pesticide de manière non correcte ?
C'est une ligne de défense qui a été développée en France dans les années 70 par un lobbyiste qui s'appelait Marcel Valta, qui était le lobbyiste de l'amiante. Il a développé justement cette théorie de l'utilisation contrôlée qui permettait de dire oui, l'amiante c'est dangereux, mais le risque est très faible si vous l'utilisez correctement. Donc, sous-entendu, si vous êtes malade, c'est de votre faute parce que vous l'avez mal utilisé. Ben là, c'est exactement la même stratégie qui est appliquée pour les pesticides. Donc, si vous avez un problème d'environnement ou de santé, c'est de votre faute parce que vous ne savez pas utiliser les produits correctement. Habile, non ?
Oui, c'est assez habile. Alors Valérie Cabanne, sur son site, Bayer dit qu'en tant qu'entreprise citoyenne, elle adhère au principe du développement durable et assume ses responsabilités sociales et éthiques.
Oui, comme si vous regardez effectivement toutes les entreprises actuellement de l'agrochimie ont une charte éthique. Ça n'empêche effectivement que la plupart des études qui sont menées aujourd'hui sur ce que produisent comme conséquence les pesticides, les cultures d'OGM. Je pense par exemple à une étude de la Endocrine Society, 18 000 chercheurs dans le monde, qui ont déterminé qu'on avait une augmentation considérable de cancers, de diabète, liés aux perturbateurs endocriniens. On est soumis à 100 000 substances chimiques par jour, et les pesticides sont la cause d'empoisonnement de 26% des oiseaux aujourd'hui. 26% des espèces d'oiseaux sont menacées. On a donc effectivement cette mortalité des abeilles qui devient dramatique. 50% des ruches dans le monde ont disparu. Et puis, on oublie de dire aussi qu'il y a quand même 3 millions d'intoxications d'agriculteurs dans le monde qui sont recensées par l'OMS. Et on va venir sûrement à Monsanto, mais Monsanto est un des responsables véritablement principaux. Il faut savoir que Monsanto quand même produit 63% des plantes transgéniques Roundup Ready. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, présentons donc le deuxième marié, oui. Hein, Monsanto.
Ces plantes Roundup Ready, donc c'est des plantes transgéniques qui sont conçues pour supporter le Roundup.
Le Roundup qui est donc l'herbicide par Monsanto.
Par Monsanto. Et donc la problématique, si vous voulez, c'est que ça répond à une de vos questions de tout à l'heure. Les agriculteurs ont tendance, étant donné que leur plante est résistante, ont tendance pour se débarrasser de toutes les autres plantes dites nuisibles à utiliser de plus en plus de pesticides, d'insecticides. Et puis, par exemple, en Inde, les produits sont vendus avec des explications qui ne sont pas compréhensibles par la plupart des agriculteurs, qui sont soit analphabètes, soit qui ne parlent pas anglais. Et il y a des précautions à prendre, il y a même au niveau de l'eau, qui doit être, la façon dont l'eau doit être utilisée, qui les conduit en fait à être soumis à une dépendance sur ces semences. Et à ne pas avoir les récoltes escomptées. Donc, alors, énormément de suicides.
Voilà, justement, en Inde, il y a des centaines de milliers de paysans qui se sont lancés dans la culture du coton transgénique, essentiellement, oui. Et qui se sont suicidés à cause de la faillite de leur exploitation. C'est ce que vous expliquez. Alors, Monsanto dit que le lien n'est pas établi, que les suicides avaient commencé avant son introduction. En tout cas, la mobilisation citoyenne s'est organisée avec à sa tête l'écologiste Vandana Shiva, qui rappelle l'importance pour les paysans, justement, de maîtriser leurs semences.
Je crois fermement que la semence est un moyen de garantir notre souveraineté. Il y a un très joli poème palestinien dans lequel le poète dit « Vous pouvez détruire mon village, vous pouvez nous bombarder, vous pouvez tuer tant de personnes, mais dans ma main, je tiens une graine, je tiens une semence. Et grâce à cette graine, grâce à cette semence, nous allons retrouver notre culture et nous allons retrouver notre liberté. Et en fait, la plus petite graine sauvée et protégée nous mène vers la liberté, nous mène de nouveau vers la souveraineté. Cela doit être un mouvement mondial, au niveau mondial. Nous devons nous mettre à la protection des semences. Parce que les graines des multinationales, c'est en fait les graines de l'esclavage, alors que les graines locales sont des graines de liberté.
Fortunately, Africa still has its own seeds.
Heureusement, l'Afrique continue à avoir ses semences locales. Elle n'a pas été submergée par les OGM. Alors, chaque personne en Afrique et dans chaque village, il faudrait préserver les semences locales et il faudrait qu'en Afrique aussi, il y ait comme le mouvement nordanien où tout le monde se met à la protection et à la conservation des semences locales.
It's very important that the movements that are already there.
Ce qui est très important, c'est que les mouvements qui sont déjà sur place reçoivent le soutien au niveau mondial. J'ai effectué des visites au Ghana, en Tanzanie, en Zimbabwe cet été. Et je me suis rendu compte que les personnes ne veulent pas d'OGM. Ils veulent protéger leurs propres graines. Et il nous faut soutenir cette lutte pour la protection des graines parce que c'est en fait la protection de la souveraineté africaine.
Alors nous irons tout à l'heure au Burkina Faso, un seul pays d'Afrique de l'Ouest à cultiver des OGM et où la résistance s'organise. Mais François Véret, comment réagissez-vous à ces propos de Vandana Shiva? Je rappelle que Monsanto empoche de confortables royalties sur 1700 brevets et licences qu'ils détiennent.
C'est essentiel ce que Vandana Shiva vient de dire. Je pense qu'il existe et il doit exister des biens communs de l'humanité qui ne doivent pas faire l'objet de marchés, des biens aussi vitaux que l'air, l'eau. Et les semences en font partie parce que ce sont des éléments qui permettent d'assurer la survie et l'autonomie des peuples. Aujourd'hui, confisquer, disons, les semences traditionnelles à tous les peuples de la Terre au profit de semences sous contrôle de ces groupes agrochimiques, c'est rendre ces peuples complètement dépendants de ces mêmes groupes. Donc c'est extrêmement grave. C'est comme aussi grave que la mise sous dépendance de la distribution de l'eau potable, par exemple. On ne devrait pas pouvoir mettre ces activités-là dans le domaine économique, ça devrait pouvoir être exclu. Donc au nom de la protection de biens communs de l'humanité, essentiel pour garantir la survie et l'autonomie des peuples. Aujourd'hui, ce que cherchent à faire des firmes comme Monsanto, c'est exactement le contraire, c'est rendre dépendants des populations entières, non seulement à ces semences, mais aux produits pesticides qui vont avec, comme ça a bien été expliqué. Quand vous utilisez des OGM, plus de 9 fois sur 10, ce sont des plantes qui sont conçues pour supporter soit des traitements herbicides, soit sécréter leurs propres molécules insecticides. Donc ça favorise l'utilisation encore plus grande de pesticides et ça favorise encore plus la dépendance double à la fois à la semence et aux pesticides pour des petits paysans qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et donc c'est dramatique.
Mais en même temps, l'argument à chaque fois qui est avancé, c'est de dire que oui, mais pour nourrir 3 milliards de personnes de plus d'ici 2050, il faut augmenter les rendements et que pour améliorer les semences, eh bien, il y a seulement ces firmes-là qui sont capables de le faire.
Alors, ce qu'on note, c'est que l'utilisation d'OGM n'augmente pas dans les faits les rendements.
Non, mais même en dehors des OGM, parce que Bayer enfin, et Monsanto et tous les autres, hein, d'ailleurs, qui sont en train de se concentrer massivement, ne produisent pas que des OGM.
Oui, bien sûr, mais alors il y a deux aspects au problème. Il y a les OGM et puis il y a après l'utilisation de toute l'agrochimie. Donc du côté des OGM, c'est clair, on n'a pas de progression significative de rendement. Et puis après, il y a l'agrochimie, les pesticides. Aujourd'hui, une étude a été faite d'ailleurs par l'ONU sur la possibilité d'augmenter la production agricole dans les pays les plus pauvres. C'est Olivier Lischutter qui était rapporteur spécial pour l'alimentation à l'ONU qui l'a conduite avec ses collègues dans le monde entier. On s'aperçoit qu'il y a un potentiel d'augmentation des rendements important dans tous les pays du monde et dans les plus pauvres en premier, non pas en utilisant plus de chimie, mais en faisant une bonne agronomie et en augmentant les connaissances agronomiques de base, mais qui visent à redonner de la fertilité au sol, à assurer leur résilience par rapport à la sécheresse, etc. On peut doubler la production agricole. Pas en allant vers plus de chimie, hein, c'est en ayant, parce que de toute façon, ces paysans-là n'ont pas la capacité économique à aller chercher ces intrants-là, mais en faisant une bonne agronomie. Donc on a le potentiel pour nourrir la planète en agroécologie, ça a été démontré.
Alors, pour comprendre le décalage dont vous parliez, Valérie Cabanne, entre la puissance marketing de ces multinationales et la réalité des paysans dans les champs, je vous propose d'écouter les propos d'un paysan cambodgien que nous avons croisé au cours de l'un de nos reportages. Il était à la sortie de son champ, à une cinquantaine de kilomètres de Phnom Penh. Bonjour monsieur, Jim Ripsou.
Ah, Jim Ripsou, mais en Côte-Vin.
Vous vous appelez comment monsieur?
C'est mon Nien.
Et donc Nien, là, vous partez au marché avec votre moto surchargée. Qu'est-ce que vous avez sur votre moto là?
L'aubergine et les jeunes pousses de canne à sucre.
Vous faites d'autres choses?
De l'ail et des choux.
Et est-ce que vous utilisez beaucoup d'intrants chimiques, des pesticides, ou est-ce que vous privilégiez des méthodes plus naturelles?
Oui, maintenant, pour mon champ, j'utilise plus de pesticides parce qu'il y a l'invasion des insectes il y a quelques mois.
Mais sinon, vous essayez de privilégier un petit peu l'aspect naturel ou ça dépend de l'invasion des insectes?
Oui, s'il n'y a pas l'invasion des insectes, on ne veut pas utiliser les pesticides parce que le coût est très très cher pour nous. Le plus difficile pour nous, c'est l'application des pesticides dans les champs, qui nous rend à la mauvaise santé, exactement.
Qu'est-ce que vous appliquez comme pesticide et qu'est-ce que ça vous fait sur votre santé ?
Souvent, mal à la tête après l'application des pesticides.
C'est quelle marque, vous savez ? Quel est le produit ?
Je ne lis pas les noms en anglais ou vietnamien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme produit, mais c'est l'emballage.
Donc vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a comme produit dans ce que vous appliquez.
S'il y a un produit qui marche bien, donc on rachète le même produit. Si quelqu'un d'autre qui nous dit qu'il y aura un autre produit qui est meilleur, donc on va tester un nouvel produit.
Mais vous aimeriez bien arrêter parce que c'est mauvais pour votre santé.
Oui, je veux bien arrêter d'appliquer les pesticides, mais on n'a pas le choix. L'invasion des insectes sont de plus en plus fréquentes, donc on a encore fait face à ce problème.
Valérie Cavan, comment vous réagissez à ce témoignage ?
C'est vraiment important de pouvoir les entendre. Parce que, si vous voulez, je prends l'exemple de ce qui s'est passé cette année au Burkina et en Inde. L'Inde a négocié, si vous voulez, des traités commerciaux qui l'a obligé, finalement, à accepter que les semences soient des semences brevetées. Et je reviens sur cette idée qui est qu'en fait, ce n'est pas tant le... Il y a le problème des OGM, c'en est un. Mais le brevetage du vivant, c'en est un autre. Et le fait de perdre la diversité des semences et la possibilité de ressemer, c'est ça qui est demandé dans ces accords. Hein. C'est, vous devez acheter nos semences, elles sont stériles, vous ne pouvez pas ressemer.
Et avec le kit de pesticides,
avec le kit, voilà, mais... Que ce soit Roundup Ready ou pas, on est quand même dans cette dynamique de semences stériles, brevetées, hybrides. Et on se retrouve effectivement avec des royalties qui sont demandées de l'ordre de 80%. Les paysans, quand ils payent avec les intermédiaires, jusqu'à 80% du prix de la semence à Monsanto, par exemple, en Inde. L'Inde a fini par comprendre que c'était plus possible. Donc cette année a dit, on baisse 70% les royalties ou vous quittez le pays. Au Burkina, c'était un autre problème.
Alors, on ira au Burkina Faso tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur ce décalage entre ce paysan du Cambodge qui ne sait pas lire et puis la puissance marketing de ces grandes firmes.
Ces personnes qui font ce qu'on leur dit de faire, qui ne savent pas quelles précautions prendre pour eux-mêmes, qui ne se rendent absolument pas compte. Le Cambodge est un pays extrêmement humide pendant la moitié de l'année. Ça veut dire très concrètement que ces tonnes de pesticides qui sont mises dans les champs ruissellent, contaminent toutes les eaux de surface, toutes les eaux profondes, contaminent toute la population. Et donc, il ne s'agit pas simplement de notre santé à nous, il s'agit aussi de la santé de ces pays-là. Toutes ces populations-là sont aujourd'hui à la merci d'une contamination générale de l'environnement et d'une santé qui devient de plus en plus précaire.
Et sans s'en rendre compte, hein, François Veillerette, c'est vrai au Cambodge, c'est vrai aussi en France. Vous êtes beaucoup mobilisé, vous, pour défendre les agriculteurs intoxiqués aux pesticides.
Oui, alors c'est vrai que les dégâts sont extrêmes dans les pays qui viennent d'être cités parce que législation très faible ou inexistante, pas de protection, un niveau de formation... quasi nul des professionnels, mais un rapport qui a été publié par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en plein milieu de l'été, montre clairement que, bon, en France aussi, les agriculteurs sont très très mal protégés et que ce qu'on pensait être efficace, comme certains équipements de protection individuelle, ne le sont pas. Et que penser justement régler le problème du risque que courent les agriculteurs uniquement par ce type de tenue, hein, la combinaison, le masque, etc., est illusoire. Qu'il faudrait régler le problème plus en amont, notamment et avant tout, en réduisant l'usage des pesticides. Donc ça, c'est une expertise collective qui a demandé 5 années de travail pour le dire. Donc ça fait des années qu'on le dit. On est ravis de voir qu'aujourd'hui, les experts rejoignent nos thèses et nos demandes. Mais évidemment, dans les pays comme l'Inde et les pays africains, on est encore à 1000 lieues de ces avancées-là. Et des firmes comme Monsanto, justement, promeuvent une agriculture qui est extrêmement dépendante des pesticides et qui expose l'ensemble de ces populations de paysans à des risques énormes.
Alors vous l'avez compris, ce mariage entre Bayer et Monsanto est inquiétant à plus d'un titre, mais il n'est pas trop tard pour se mobiliser puisque l'approbation de cet accord de fusion doit encore être soumise aux actionnaires de la multinationale américaine, là on n'a pas beaucoup de doutes, mais surtout au feu vert des autorités de la concurrence américaine et européenne. Nous en parlons juste après le flash d'info, à tout de suite.
À l'occasion de la sortie